Philosophe, la série de France Inter consacrée aux révolutionnaires de la pensée, toujours en compagnie de la philosophe Florence de Villers. Il y a les malentendus qui entourent René Descartes. Il y a un mot qui lui est associé, un mot un peu compliqué mais qui est très simple à expliquer. Vous allez le faire dans un instant. C'est le mot dualisme. Quand on pense à Descartes, il y a l'idée que l'animal, c'est une machine. Le corps s'oppose à l'esprit. Dès qu'on prononce le nom de Descartes, ce sont des idées qui lui sont systématiquement associées. Et pourtant, ce sont non seulement des malentendus, mais même des erreurs. C'est-à-dire que pour Descartes, il n'y a pas de dualisme, c'est-à-dire de distinction radicale entre le corps et l'esprit.
En tout cas, ça l'intéresse pas. Alors, moi, je me dis que Descartes...
Ça ne l'intéresse pas.
Non, mais je me dis que Descartes est tellement réfractaire à une pensée molle et morte, universitaire, que quand les universitaires ont commencé à faire du cartésianisme, eh ben, ils ont abîmé Descartes. Mais, en fait, ce qui l'intéresse, Descartes, c'est pas le dualisme. Alors, il le montre. Évidemment que dans les méditations, dans le discours, dans toutes ses œuvres, il montre que je n'ai besoin que de la pensée pour savoir avec certitude que j'existe. D'accord. Mais ce qui va l'intéresser, c'est pas du tout le dualisme. C'est l'union. Comment ça se fait?
On ne peut pas séparer l'âme et le corps.
Mais est-ce que vous le pouvez? Il le dit. Il dit l'homme, le vrai moi, l'homme tout entier. C'est l'union de l'âme et du corps. Et vivre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'aime beaucoup cet exemple. Qu'est-ce que c'est que la douleur?
Oui.
La douleur, vous dites pas ma main a mal si vous la placez dans le feu. Vous dites j'ai mal. Mais oui, mais ça c'est cartésien. C'est-à-dire que je ne suis pas dans mon corps, dit-il, comme un pilote en son navire. Oui, qui pilote mais qui n'a pas mal si le bateau est brusqué ou est abîmé. Mais nous, si notre corps a mal, on dit pas mon corps a mal. On dit j'ai mal. C'est ça le cartésianisme. C'est l'union de l'âme et du corps. Alors évidemment, Elisabeth, elle lui dit, mais je comprends pas, vous êtes le philosophe qui nous avait dit que la certitude d'exister, on l'obtient par le fait d'être en train de penser. Et là, maintenant, vous me dites qu'être homme, c'est être l'union de l'âme et du corps. Et elle va même dire, être femme, c'est peut-être plus difficile encore. Elle lui dira, hein.
Oui.
Et c'est ça qu'intéresse Descartes. Pourquoi il a écrit le traité des passions? Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas ce qu'on appelle le dualisme. Le mot n'existe absolument pas dans Descartes. C'est l'union. C'est-à-dire, comment faire pour vivre, comment faire pour être en bonne santé, comment faire pour affronter la maladie, comment faire pour affronter les épreuves de la vie.
C'est un médecin.
Ah, bah voilà. Moi, je pense que Descartes, de nos jours, il s'intéresserait... Je pense qu'il serait neurochirurgien, en fait.
Ah oui.
Il ferait de la philosophie, mais il s'intéresserait à la médecine. En fait, une des notions qui l'intéresse le plus, c'est le cerveau. Parce que justement, le cerveau, c'est du corporel, qui est la courroie de transmission entre l'âme, on ne peut pas la loger dans le corps, hein. L'âme, elle est immatérielle, et le corps. Le cerveau, c'est une grande notion cartésienne. Alors, ce qui fait que des neurologues comme Damasio, qui ont parlé de l'erreur de Descartes, je pense, n'ont jamais lu Descartes.
Alors écoutez, on va laisser Damasio de côté pour revenir à docteur Descartes, à ce docteur qui n'ignore pas que la santé du corps aide l'esprit. Vous parliez de sa correspondance avec cette princesse de Bohême, la princesse Elisabeth, qui est aussi philosophe que Descartes. Elle lui demande comment se libérer de pensées tristes. Elle lui demande s'il faut méditer sérieusement sur les sciences, ne s'occuper finalement que du savoir pour être un pur esprit. Si c'est ça, la liberté. Et au fond, qu'est-ce qu'il lui répond?
En fait, Elisabeth, elle est beaucoup trop cartésienne, pour être honnête. C'est-à-dire que Descartes va lui répondre, arrêtez tout de suite. Il ne faut consacrer que quelques heures par an à ce qui n'occupe que l'esprit, c'est-à-dire à la philosophie. Et alors, Elisabeth est ce qu'on appellerait de nos jours dépressive.
Oui.
Donc les questions qu'elle pose à Descartes, c'est toutes les questions qu'on pose à la philosophie, en fait. C'est, est-ce que la philosophie va m'aider à vivre? Et Descartes lui répond. Et alors, on s'attend à ce qu'il lui réponde avec tout un traité de métaphysique. Non, il lui dit, allez voir les couleurs d'une fleur et le vol d'un oiseau.
Regardez la verdeur d'un bois, les couleurs d'une fleur, le vol d'un oiseau, et telle chose qui ne requiert aucune attention, se persuade qu'il ne pense à rien. Ce n'est pas perdre le temps, mais le bien employer.
Mais oui, parce que c'est pas perdre son temps, c'est l'employer à vivre ce qu'on vit. Et pour Descartes, comment comprendre, penser l'union de l'âme et du corps, qui est si difficile à penser, hein? C'est un peu la carpe et le lapin, hein, l'âme et le corps,
oui,
ensemble. Et il dit, c'est pas en faisant d'abord de la philosophie, c'est d'abord en expérimentant cette union, c'est-à-dire en vivant. C'est en vivant et en étant attentif à ce qu'on vit, qu'on sait ce que ça veut dire qu'avoir un corps.
Alors l'autre malentendu, il porte sur l'animal-machine. L'animal est une machine, c'est une thèse qu'on prête à René Descartes, et ceux qui la défendent s'en revendiquent d'ailleurs. Et pourtant cette formule, bon, d'abord elle n'est pas chez Descartes.
Bah d'abord, c'est pas lui, elle est chez Thomas d'Aquin déjà. Enfin, Descartes n'invente pas l'animal-machine. Alors, moi, ça m'a posé problème parce que je défends la cause animale et j'appartiens à des organismes plutôt virulents pour défendre les animaux. Et donc, je peux vous dire que je l'ai médité, cette doctrine cartésienne.
Parce que ce n'est pas une préoccupation de l'époque, et alors encore moins à l'époque de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle.
Alors, la défense des animaux, non. En revanche, Descartes change dans sa vie. Et moi, c'est ce changement qui me fait l'aimer encore plus. Il change dans sa vie. Voilà ce qu'il dit, on est en 49, on est quasiment à la fin de sa vie. En 1649,
il meurt au XVIIe siècle.
Il meurt quelques mois après. Et donc là, il change. Il dit, en fait, on ne peut pas se prononcer pour savoir si les animaux ont une âme ou pas. On ne peut pas se prononcer. Pourquoi ? Mais parce qu'il est René Descartes. Et qu'est-ce qu'a fait René Descartes ? Il a inventé le fait que la pensée est aussi la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on pense, on sait qu'on pense. On a conscience qu'on pense.
Ça, c'est sa grande invention.
Ah ben ça, c'est la grande invention cartésienne.
Oui, mais la conscience, c'est, on pourrait dire, le propre de l'homme.
Eh ben non, justement, qu'est-ce qu'il nous dit en 49 ? Il nous dit, c'est le propre de l'homme. Oui, mais personne ne peut aller à l'intérieur de vous, de votre cœur, pour savoir ce que ça fait qu'être conscient de penser. Bah, ça, c'est inimitable. Et je dirais, de nos jours, on est menacé par l'IA, l'IA pourra pas me l'ôter. Ce que ça fait de penser ce que je pense, et il va très très loin. Il dit, c'est pas seulement penser ce que je pense, c'est penser que j'imagine, que je veux, que j'aime, que je sens, que je nie, que j'affirme. Tous mes actes, je pourrais dire, j'ai conscience de, je sais que. Et il dit ça, faudrait sonder les reins et les cœurs pour le savoir. Vous pouvez pas rentrer à l'intérieur d'un animal pour dire, est-ce qu'il a une conscience ou est-ce qu'il en a pas? Mais pas plus que de l'autre homme. C'est-à-dire que quand je vous vois de l'extérieur, je dis c'est un homme. Bah, j'extrapole un peu. Ce que je vois, c'est un corps qui fonctionne très très bien. En fait, le grand problème de Descartes, c'est pas tant de donner une âme aux animaux, c'est le fait que les hommes en aient une. Parce que quand on voit un homme de l'extérieur, bah, c'est aussi bien un automate.
Oui, d'ailleurs, regardez un chef-d'œuvre du cinéma. Et là, pour le coup, le blockbuster de Ridley Scott, qui est un magnifique film de science-fiction. Un film cartésien, Blade Runner. Dans Blade Runner, il y a un certain Descartes. Descartes qui a le métier de traquer ce qu'on appelle les réplicants. C'est-à-dire des sortes de robots, des androïdes, qui ressemblent en tout point à des hommes. Impossible de les distinguer de l'extérieur. Il les traque, il les chasse, il se bat contre eux. Descartes, c'est le héros joué par Harrison Ford. Alors évidemment, hommage à René, mais il est troublé. Il y a une scène dans le film qui vous a interpellé et qui en dit beaucoup sur la philosophie de Descartes.
Ah oui, c'est que...
Quoi de commun entre Blade Runner et Descartes ?
Bah d'abord, parce que le héros est cartésien, c'est Descartes. Voilà.
Descartes.
Et puis ça aide quand même à mettre le visage d'Harrison Ford sur Descartes, si on veut un peu se lancer dans les méditations, qui est un exercice difficile. Et puis parce que Nexus 9, le robot le plus perfectionné dans Blade Runner, à la toute fin, dit « Moi aussi, je pense donc je suis ». Et là, on
Il prononce ces mots.
Ah oui, il prononce ces mots. Et là, on se dit justement... Si la machine, je dis la machine pour parler comme Descartes, si la machine en venait à avoir une conscience, c'est-à-dire pas seulement à penser, on le voit très bien de nos jours que voilà, les machines donnent l'impression de penser en tout cas, mais si la machine savait ce que ça fait de penser, si la machine avait conscience de penser, ben à ce moment-là, oui, on aurait vraiment perdu la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence cartésienne, enfin l'intelligence humaine. Mais pour revenir aux animaux, rien ne permet de dire qu'ils n'ont pas de conscience. En revanche, si on soutient ça, bah il faut prêter une immortalité à la mouche ou à l'huître. Ah bah oui, parce que l'âme, chez Descartes, est immortelle. Donc la vraie question, je crois, c'est celle-là.
Alors, la morale de l'histoire, il y a aujourd'hui quelque chose dont on parle comme d'une évidence et qui résonne parfaitement avec ce que vous venez de décrire, c'est l'intelligence artificielle. Face à l'intelligence artificielle, allez, comme si on poussait le scénario de Blade Runner dans le contexte de la pensée de Descartes, je suis, j'existe, plus que jamais, c'est ce qui va nous définir face à la machine.
Ah ouais, on n'aura pas Descartes, enfin on ne me le prendra pas. Évidemment, ce qui et je pense que ça devrait être à la fois un programme et une joie pour nous humains, je crois, de nous dire que ce qu'on nous ôtera pas, c'est le vécu, pas le vécu au sens de notre passé, mais le fait que tout ce qu'on fait, on devrait le vivre. C'est-à-dire quand je pense, quand je parle avec vous, quand je lis Descartes, qu'est-ce que ça fait de faire ça? C'est ça le vécu. Qu'est-ce que ça fait de faire ça?
Et ça résistera toujours aux machines.
Ah bah oui. Oui, moi j'en suis convaincue. Qu'est-ce que ça fait de lire Descartes? Et c'est ça qu'il nous demande, il dit pas ne m'apprenez pas par cœur, ne m'apprenez pas, ne me récitez pas, essayez de faire avec moi et de voir ce que ça fait. Ben qu'est-ce que ça fait d'eux? C'est le vécu, c'est le fait d'être vivant. Ben ça je crois qu'on nous l'ôtera pas. Plus que jamais, faut dire moi je suis, moi j'existe.
Moi je suis, moi j'existe, moi je domine aussi. C'est un autre malentendu et le dernier de la série Laurence de Villers, les lois de la physique, les lois de la nature pourraient nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Ça, c'est ce qu'a écrit Descartes dans le discours de la méthode. Là aussi, c'est une phrase qui est quasiment un slogan. C'est ce qui justifie la supériorité de l'homme sur l'animal, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une attitude de prédateur par rapport à la planète, la nature, prélever ce qui nous y intéresse, pourrait nous être utile. Pourquoi non?
Non, parce que ça, c'est pas Descartes. Alors, je le lis, je l'entends, et à chaque fois, je repars au combat. Bah non, d'abord, il dit comme. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais maître et possesseur de la nature. On l'a reçu comme un legs, on est dépositaire. Le seul qui pourrait dire qu'il est maître et possesseur, c'est Dieu.
Oui.
Et nous ne sommes pas Dieu. Enfin, c'est quand même une vérité qu'il est bon d'entendre. Et donc, il y a ce comme. Et puis, ce que veut dire Descartes, c'est pas du tout un programme de prédation, c'est une libération. En fait, il faut imaginer qu'il écrit au XVIIe siècle, le petit âge glaciaire, pour la seule fois dans l'histoire de l'humanité, Homo sapiens, la taille d'Homo sapiens a diminué. On a toutes les épidémies, la peste, la guerre en permanence. Donc c'est un siècle sombre. Le vrai Moyen-Âge, c'est le 17e.
Le paradoxe, oui.
Ah oui, c'est le 17e. C'est un siècle magnifique et grandiose, mais un siècle sombre. Peut-être les deux sont liés. Et Descartes dit, en fait, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire connaître les lois qui régissent la nature, c'est libérer les hommes, c'est libérer par exemple le paysan qui travaille comme une bête, dit Descartes. Et puis un exemple plus simple, quand vous prenez un cachet pour la migraine, bah vous vous rendez comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire vous ne dites pas seulement faut laisser faire la nature, je vais avoir la migraine toute la journée. Vous donnez raison à Descartes, vous dites en fait connaître les principes de la nature, étudier la physique, étudier la médecine, c'est libérer l'homme. Et puis qu'est-ce que serait le programme cartésien d'une technique prédatrice, donc qui irait au-delà de sa fonction qui est de nous libérer, si elle en venait à nous détruire? Bah, ça serait plus du tout une technique. Donc il faut absolument arrêter de dire que c'est la faute à Descartes.
Et arrêter de penser que Descartes, c'est quasiment le nom d'un parti politique.
Oh bah certainement pas. De toute façon, Descartes aurait
vous
refusé.
Vous l'avez écrit dans votre que sais-je.
Ah bon,
la formule, elle est formidable.
Bah, en fait, je pense que Descartes aurait refusé. Descartes, c'est le type qu'on peut pas embrigader. Il appartient à aucune école. Il appartient. Moi, il y a une phrase de Courbet. Ça vous paraît curieux, hein?
Gustave, le peintre.
Oui, le peintre.
Du 19e.
Qui m'aide toujours à comprendre Descartes.
Oui.
Et qui est aussi une des phrases que j'ai cousues dans mon manteau. Il dit, je vais bientôt avoir 50 ans et je ne laisserai personne dire autre chose que cet homme n'a jamais appartenu à aucune école, aucune académie, aucune religion, aucun régime politique, si ce n'est celui de la liberté. Bah, Descartes, c'est ça. C'est que je pense qu'on peut absolument pas l'embrigader. Et puis, par pitié, ne lisez pas Descartes comme une langue morte. C'est une philosophie vivante.
Qu'est-ce qu'il en reste de Descartes aujourd'hui?
J'allais vous dire tout. Voyez, regardez, on a cité Blade Runner, c'est-à-dire que les questionnements de
Matrix.
Nos jours, Matrix. Alors ça, c'est pour dans la culture populaire, mais la question, elle est là, elle est très profonde. C'est qu'est-ce qui nous reste d'humain face à une intelligence artificielle? Bah, ne me dites pas que Descartes n'a pas quelque chose à répondre. Et puis, c'est ce que dit Valéry. Il dit Descartes, et moi c'est ça qui me touche à chaque fois que je relis du Descartes. Il dit Descartes, en fait, on sent, peu importe d'une certaine façon sa philosophie, qu'on la comprenne ou pas, on sent derrière un moi grandiose. Ouais, il y a une beauté de la langue déjà, et puis il y a cette espèce de panache cartésien. Vraiment, à chaque fois que je relis des passages que je connais pourtant, je me dis quelle élégance, quelle force.
René Descartes par Laurence de Villers. Merci infiniment,
merci
Laurence de Villers. Philosophe, une série d'Ali Badou préparée par Maëlle Polsinelli, réalisée par Séverine Cassard. Prise de son, Florian Dittre. Mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Coordination, Fanny Boyon. Philosophe, un podcast original de France Inter.